RCF. Dans le scénario actuel de la théorie du Big Bang, une longue période de l'histoire de l'univers est appelée la période des âges sombres.
Et quand se situe-t-elle ?
Entre 380 000 ans après le Big Bang pour s'achever après 400 millions d'années. Cette dernière limite étant encore très incertaine, très approximative. Avant, durant les 380 000 premières années de l'histoire de l'univers, celui-ci est très chaud et rempli d'un milieu opaque qui retient la lumière prisonnière.
Alors que se passe-t-il 380 000 ans après le Big Bang ?
Alors du fait de l'expansion de l'univers, la densité et la température chutent rapidement. Quelques 380 000 ans après le Big Bang, elles passent en dessous des 3000 degrés puis continuent progressivement de décroître. En conséquence, du plasma chaud de particules chargées dont était rempli l'univers, des atomes neutres se forment, surtout des atomes d'hydrogène.
Atomes formés d'un proton lié avec un électron.
C'est ça. Le plasma chaud et opaque cède progressivement la place à un gaz chaud, mais transparent. La lumière, prisonnière du plasma, se trouve libéré,
délivré.
C'est ça, Joël. Un rayonnement quasi homogène et uniforme remplit alors tout le cosmos. C'est lui dont le fond diffus cosmologique dont nous avons parlé il y a peu de temps et que nous observons aujourd'hui constitue le vestige.
Alors à l'époque, l'univers est donc rempli d'un rayonnement intense. Il n'est donc pas obscur ?
Au début, non. Mais avec l'expansion de l'univers, ce rayonnement va rapidement voir sa longueur d'onde s'allonger et sa température décroître. C'est là le commencement des âges sombres, car il n'existe plus à cette époque de source lumineuse dans l'univers. Le rayonnement du Big Bang s'est dissipé, mais aucune étoile n'est encore apparue.
Alors au début des âges sombres, de quoi est composé l'univers ?
Alors outre le rayonnement dont nous venons de parler, l'univers est sans doute rempli d'un conglomérat de gigantesques nuages d'hydrogène et d'hélium froid qui n'émettent donc aucune lumière visible.
Alors à l'époque des âges sombres, dans l'univers, il n'y a ni étoiles ni galaxies. Juste des nuages d'hydrogène et d'hélium ?
Auxquels s'ajoutait sans doute la mystérieuse matière noire que les cosmologistes estiment indispensable à l'élaboration, à la construction des grandes structures de l'univers. Mais elles non plus n'émettent aucune lumière. C'est donc la nuit noire. Or, les astrophysiciens rêvent de savoir ce qui s'est déroulé au cours de cette mystérieuse période.
Et pourquoi ?
À cette époque, l'univers était très peu différencié. On dit que son entropie était faible. La question qui obsède les astronomes, c'est par quel processus l'univers est-il passé d'un état si homogène et si simple à l'état que nous lui connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une architecture complexe et très différenciée avec des amas de galaxies et des objets divers et variés. Or, cette transformation s'est opérée dans l'obscurité la plus totale des âges sombres.
Mais on ne sait pas comment.
On ne sait pas. Les âges sombres portaient potentiellement en germe l'univers d'aujourd'hui et même l'univers du futur. Ce sont ces vastes nuages d'hydrogène et d'hélium des âges sombres qui, plongés dans l'obscurité, sont demeurés jusqu'à aujourd'hui impossibles à observer dans le domaine de la lumière visible. Cependant, les nuages froids d'hydrogène atomique ne sont pas indétectables. Ils ont la particularité d'émettre un rayonnement perceptible dans le domaine des ondes de la radio. À une longueur d'onde de 21 cm, ou pour les spécialistes, si l'on préfère, une fréquence de 1420 MHz. C'est d'ailleurs grâce à cette propriété qu'il a été possible de dresser une carte détaillée des grands nuages d'hydrogène qui peuplent notre galaxie.
La Voie lactée. Alors, je voudrais te poser une question qui va sans doute te paraître naïve. Pourquoi l'hydrogène émet-il un signal radio sur la longueur d'onde de 21 cm ? C'est dû à quoi ?
Ah là, c'est une très bonne question. Tout d'abord, ça ne concerne que l'hydrogène atomique et non pas l'hydrogène moléculaire. En clair, quand les atomes solitaires d'hydrogène s'accouplent deux à deux pour former des molécules d'hydrogène diatomique regroupant deux atomes, ce phénomène disparaît.
Alors d'accord, mais ça n'explique pas son origine.
C'est vrai. Un atome d'hydrogène est formé d'un unique proton chargé positivement, associé à un petit électron qui lui est chargé négativement. Chacune de ces deux particules possède un moment magnétique, ce que les physiciens nomment le spin.
Oui, je sens que ça va devenir un peu compliqué.
Non, on peut se représenter la chose en imaginant que le proton, comme l'électron, tourne sur lui-même. Ce n'est, je le rappelle, qu'une représentation commode. Dès lors, Joël, deux cas de figure sont possibles. Premier cas, les rotations du proton et de l'électron sont de même sens.
Et deuxième cas, les rotations du proton et de l'électron sont opposées, non ?
Oui.
Elles sont de sens contraire.
Et c'est ça, exactement.
D'accord.
Le spin total de l'atome d'hydrogène sera dans le premier cas égal à la somme des spins du proton et de l'électron. Dans le second cas, il sera égal à la différence des deux. On le voit, selon que les spins sont parallèles ou antiparallèles, le moment magnétique total n'est pas exactement le même. L'émission d'un photon, d'une onde radio, sur la longueur d'onde de 21 cm, se produit lorsque l'atome d'hydrogène passe de l'état excité, qu'on appelle aussi l'état hyperfin, où les spins du proton et de l'électron sont de même sens, à l'état fondamental, l'état de plus basse énergie, où les spins sont de sens opposé.
Un peu comme si, brusquement, l'électron culbutait sur lui-même pour se retrouver la tête en bas.
Eh bien, c'est une jolie image, Joël, mais elle nous permet de comprendre le phénomène. Selon les lois de la physique, des transitions spontanées doivent se produire de temps à autre du niveau d'énergie le plus élevé au niveau d'énergie plus faible. Le principe de conservation de l'énergie montre que ce changement s'accompagne forcément de l'émission d'un photon de fréquence proportionnelle à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Au cas présent, cette différence étant très petite, la fréquence sera aussi très basse, 1420 MHz, et la longueur d'onde se trouvera dans le domaine des ondes radio désymétriques à 21 cm.
Et cette culbute de l'électron, je veux dire, cette transition, elle est très fréquente, je suppose, non ?
Eh ben, pour un atome d'hydrogène particulier, en moyenne, elle se produit une fois tous les 11 millions d'années.
Ah, une fois tous les 11 millions d'années, mais c'est extrêmement rare.
Oui, mais le fait que cette émission radio soit observable et intense montre que les nuages d'hydrogène contiennent des milliards et des milliards et des milliards d'atomes suffisamment pour produire un bruit radio continu.
Alors qu'attend-on pour mesurer l'émission radio de 21 cm des nuages d'hydrogène des âges sombres ?
Eh bien, c'est qu'il y a un gros problème, Joël. L'expansion de l'univers. Les nuages d'hydrogène des âges sombres sont non seulement très éloignés de nous, mais du fait de l'expansion de l'univers, ils semblent nous fuir à une si grande vitesse que la longueur d'onde de 21 cm est dilatée vers les grandes longueurs d'onde. C'est ce qu'on nomme l'effet Doppler-Fizeau.
D'accord. Et aujourd'hui, on reçoit de ces nuages un signal radio de quelle longueur d'onde alors ?
Alors, il faut multiplier 21 cm par un facteur compris entre 100 et 1000.
Ouf.
Ça nous fait des signaux radio d'une longueur d'onde comprise entre 20 et 200 mètres. Ou si l'on préfère, des fréquences comprises entre 1,4 et 14 MHz.
Et alors ?
Eh bien, depuis la Terre, il n'est pas possible de recevoir des signaux ayant cette longueur d'onde.
Alors les nuages d'hydrogène des âges sombres émettent vers nous un bruit radio indétectable depuis la Terre. Mais pourquoi ?
Alors à cause des couches supérieures de notre atmosphère, Joël, l'ionosphère gêne trop la propagation de ces ondes-là. En outre, ces longueurs d'onde sont aussi celles des radars maritimes et celles des téléphones portables.
Donc aucun radiotélescope sur Terre ne peut étudier ce rayonnement. Il faudra aller dans l'espace ?
Alors, il existe de vastes réseaux constitués d'un très grand nombre d'antennes radio reliées entre elles pour faire ce qu'on appelle de l'interférométrie, c'est-à-dire l'équivalent d'un instrument unique géant. C'est le cas de LOFAR en Europe ou de SKA en Australie. Mais c'est pour la partie basse fréquence. Ils sont sensibles à 30 MHz. Ils peuvent étudier la fin des âges sombres.
Le moment où les premières étoiles s'allument.
C'est ça. Mais ils sont inefficaces pour étudier les périodes antérieures. Ah. Et s'extraire de l'atmosphère terrestre ne résout pas le problème, car la Terre, par sa présence, parasiterait, perturberait trop la réception. Selon le célèbre cosmologiste Joseph Silk, et comme le montre Anil Anantaswamy dans un article de juin 2021 de la revue Pour la Science, le lieu idéal pour observer le cosmos tel qu'il était avant que naissent les premières étoiles, c'est la face cachée de la Lune.
Là où on ne reçoit aucun signal depuis la Terre, puisqu'on ne la voit pas. Mais le Soleil émet lui aussi des ondes radio.
C'est vrai, mais on peut observer la nuit, qui sur la Lune dure 14 jours terrestres. Peut-être y sera-t-on un peu perturbé parfois par les émissions radio en provenance de la planète Jupiter. Mais sinon, sur la face cachée de la Lune, c'est le silence radio total.
Alors, installer un grand radiotélescope sur la face cachée de la Lune nécessite d'envoyer des astronautes, de construire une base lunaire. C'est une logistique énorme et un budget faramineux, non ?
Eh bien, pas nécessairement, Joël. Certains radiotélescopes sont constitués d'un vaste réseau d'antennes multiples, disposées en forme d'une croix. Pour observer, on observera que pour observer ce fameux rayonnement, des antennes radio très simples, assez proches de celles qui servaient à recevoir la télévision, sont tout à fait capables de détecter ces basses fréquences. Des études ont été menées notamment au Jet Propulsion Laboratory en Californie, montrant qu'il est possible de graver de telles antennes sur un long ruban de film plastique à deux dimensions.
Oui, mais comment les antennes seraient-elles déployées ?
Alors, Jack Burns, qui dirige une étude financée par l'agence américaine, la NASA, visant à déployer sur la face cachée un radiotélescope nommé Farsight. Farsight, c'est l'acronyme de Farsight Array for Radio Science Investigation of the Dark Hadrons and Exoplanets.
Et ce qui donne en français.
Réseau radiométrique de la face cachée de la Lune pour l'étude des âges sombres et des exoplanètes. L'idée est de faire atterrir sur la face cachée de notre satellite un engin automatique doté d'une charge utile constituée de 4 rovers et de pas moins de 256 antennes dipôles. De façon entièrement automatique, chaque rover déploierait et traînerait derrière lui son lot d'antennes. Le tout finirait par former 4 vastes pétales disposés en forme de croix de Saint-André dans une région située de préférence au fond d'un cratère à fond plat et mesurant environ le tout 10 km de diamètre.
Et pourquoi cette taille ?
Eh bien parce qu'un tel réseau équivaut à un instrument d'une résolution et d'une sensibilité bien supérieure à celle d'une seule antenne. La résolution, en fait, elle est proportionnelle à la distance séparant les antennes les plus éloignées.
Et est-ce que c'est un projet réaliste ?
Alors, selon Jack Burns, ce projet est tout à fait compatible avec les techniques actuelles. Et il est possible de le mener à bien vers la fin de notre décennie. Si c'est le cas, il sera alors possible de sonder cette période étrange de l'histoire de l'univers où les premières étoiles n'existaient pas encore.
Et nous serons éclairés sur les âges-chambres. Ce sera tout pour aujourd'hui, Bernard. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Bernard. Et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
Au revoir, Joël.